Bonsoir à tous et à toutes. Ça fait donc un certain temps, et je dirais longtemps, que j'ai pas pris la parole, au moins on va dire sur la webconf, et que je n'ai pas écrit non plus. Donc en effet, j'ai été très très occupé, comme vous pouvez le constater. Donc nous allons essayer, dans la prochaine tournée, qui va être en direction du sud, de changer un tout petit peu notre façon de procéder, afin que je puisse quand même avoir le temps de vous écrire un petit article de temps en temps, hein, et pouvoir répondre aux emails, etc. Et éviter que tout s'accumule, parce que effectivement, les 4 dernières semaines ont été un petit peu délicates pour pouvoir gérer ce côté-là. Donc voilà, c'était pour les nouvelles principales, et je pense que la nouvelle tournée sera mise en ligne dès qu'on aura, on va dire, fixé un peu plus, un peu mieux les choses. Donc je vais commencer par les questions qui ont été posées. Et je commence par une question de 1000. As-tu un retour des hautes sphères sur l'encodage déjà effectué? Est-ce que la version V2 est la version ultime ou y aura-t-il des mises à jour? Alors il y a, on va dire, deux questions dans la question. Alors la première, c'est que effectivement, il n'y a pas pour l'instant de prévu de version supérieure, puisque la version V2 que l'on nous a donnée est, on va dire, le package complet avec une option, hein, comme je l'avais dit, pour l'intervention de Marie. Donc de ce côté-là, il ne faut pas s'attendre à une version V3 dans les mois à venir ou plus tard. Vaut mieux, on va dire, rester sur la version V2, qui est donc la version, je rappelle, ultra complète. Alors maintenant, parlons, on va dire. Alors bon, je vais quand même dire un petit mot par rapport à la V1 et la V2. La V1 représentait à peu près, si je prends la V1 comme référence, représentait environ une ligne de code. On va dire, je prends, c'est la référence, hein. Et la version 2 en comporte à minima, on va dire, 300, plus une petite option qui a été rajoutée, comme je disais, celle de Marie. Donc on voit que c'est un programme qui n'a plus aucun rapport, on va dire, avec la V1. La deuxième chose, c'est que les gens qui ont encore, on va dire, une V1, normalement il n'y en a que quelques-uns, parce que ben tout simplement il y a eu plusieurs problématiques pour pouvoir les mettre à jour en V2. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'effectivement il y avait une problématique, c'est qu'il fallait que l'entité qui était chargée, on va dire, de remettre la V1 à la V2 avait, on va dire, un certain nombre de difficultés, qui étaient celles d'abord de pouvoir repérer où étaient les V1. En effet, si quelqu'un avait une V1 enfouie, on va dire, dans son sous-sol, en plein Paris, c'était quasiment indétectable. Donc, là où il y avait de très fortes perturbation, on va dire, il était difficile, voire impossible, de pouvoir repérer. Donc, pour les gens qui ont des V1 et qui semblent ne pas bouger beaucoup, enfin des pierres qui sont encodées, qui ne semblent pas bouger beaucoup, c'est que votre pierre n'était pas en pleine nature et accessible, on va dire. La deuxième chose aussi, c'est que l'entité qui a remis, on va dire, la V2 a une capacité, on va dire, limitée, car comme vous le savez, autant on prête une grande puissance aux êtres, hein, aux êtres de lumière, on va dire, autant ils ont une puissance très limitée dans la matière. Ce qui n'est pas le cas quand c'est moi ou Corinne qui les encodons directement. Donc, en clair, même une V1 qui a été poussée en V2, qui a été mise à jour correctement, verra, on va dire, sa puissance limitée, on va dire, à entre 120 et 150. C'est-à-dire 10 puissance 120 à 150. Vous allez me dire que c'est déjà énorme. C'est énorme par rapport à ce que ça faisait avant. Hein, puisque nous avions poussé la V1 maximum à 10 puissance 23. Donc quand ça monte entre 120 et 150, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'était le premier point. Maintenant, eh bien, on va voir que la version V2, on va dire, avec le temps, hein, puisque nous avons quand même pris un petit peu de recul, avec le temps, dépasse très largement, on va dire, les prévisions, car l'eau, on va dire, qu'actuellement nous avons laissée à la maison et qui continuait à s'encoder, grosso modo, a dépassé, c'est-à-dire que le cadran, nous parlons maintenant en 10 000. C'est-à-dire que nous avons trois bouteilles qui ont dépassé, on va dire, les 10 000. Et pour être précisément, la bouteille la plus avancée est à ce soir à environ 10 puissance 45 000. Donc c'est... Bon, ça se passe de commentaires, on va dire. Donc la puissance V2, si vous faites comme je vous l'ai indiqué, ne jamais finir vos fonds de bouteille et les laisser, on va dire, continuer à encoder, car il y a une relation directe entre la quantité d'eau et sa capacité à monter en puissance. Donc ça, je l'avais déjà dit dans une vidéo. S'il y a très peu d'eau au fond de la bouteille, vous laissez le caillou et pendant plusieurs jours d'affilée, plus la puissance va monter et plus ça va être exponentiel. En clair, vous allez avoir de l'eau qui va monter à 10 puissance 5000, voire 10 000 en des temps records. Là après, quand vous complétez la bouteille, je peux vous dire que ça décoiffe. Hein, ça décoiffe lourdement. Voilà, hein, donc c'était en préalable à beaucoup de choses. Alors maintenant, commençons à répondre à Mille pour sa première question. As-tu un retour des autres sphères sur l'encodage déjà effectué? Oui, il y a eu un retour, on va dire, absolument exceptionnel, puisque au fur et à mesure que nous avons avancé la tournée, eh bien, nous avons remarqué effectivement que les choses ont changé au fur et à mesure qu'on a avancé dans notre tournée. Donc nous étions partis faire surtout, on va dire, de l'encodage à l'origine, l'encodage de tas, avec des petites, on va dire, rencontres, conférences locales, et ça nous prenait 100% de notre temps. Ensuite, pour des raisons, on va dire, pas inexpliquées, mais bon, qu'on a suivi notre feeling, nous avons commencé à encoder quelques cathédrales, quelques églises, puis cathédrales, et cela a déclenché un autre plan, puisque le résultat de l'encodage des cathédrales a amené, on va dire, une nouvelle façon de voir les choses. Donc je vous expliquerai ça plus en détail, je dirais, au fur et à mesure de la conférence, soit je ferai un article dans les jours qui viennent qui vous décrira plus précisément comment les choses se sont, on va dire, enfilées les unes après les autres. Et on peut dire qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis notre retour ici à la maison, c'était avant-hier soir. Donc dans les hautes hiérarchies, il y a eu effectivement, dans les hautes sphères, il y a eu effectivement un remue-ménage qui était absolument imprévu, aussi bien par nous que par les êtres de lumière eux-mêmes. Donc ce qui veut dire qu'il y a une très 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 forte réactivité suite au programme d'encodage. Donc je décrirai ça plus en détail plus tard. Une question de Bennett. Toute l'opération Petit Poussé a-t-elle apporté des changements pour cette fin d'année et pour l'année prochaine? Alors, a-t-elle apporté? Nous sommes au tout début du début, et effectivement, les résultats apportés dépassent toutes les espérances. Donc c'est pour ça que j'enjoins chacun à continuer à disséminer, on va dire, les cailloux encodés, et aussi bien au niveau, on va dire, des rivières, mais aussi au niveau du passage des 2C2P à d'autres personnes. Car vous savez que plus vous allez passer de petits cailloux 2P à d'autres gens pour qu'ils fassent des essais, et plus vous leur permettez en fait d'augmenter leur fréquence en faisant les essais. Et là, ça change énormément de choses. Alors, ce qui est de la fin d'année ou l'année prochaine, j'en parlerai plus longuement là aussi via, on va dire, des articles, c'est évident. Parce que pour l'instant, si je vous dis tout ce qui se passe, vous n'y croiriez pas un iota. Donc il faut laisser un tout petit peu le temps passer pour que vous rendiez compte que le fait simplement d'avoir fait un travail pendant un mois a changé profondément la donne. Très profondément. Et donc, vous en verrez les résultats avant même qu'on finisse les tournées, par les résultats physiques au niveau de la population et aussi de la planète. Ce qui était plus ou moins prévu a-t-il été modifié? Si oui, quels sont ces modifs? Bon, bah, je ne répondrai pas à celle-là tout de suite. Alors, oui, il y avait, on va dire, une certaine forme de planification, une prévision. Hein. Donc, autant quand nous avons reçu la V2, nous ne savions pas à quoi nous avions affaire exactement, et nous avons, d'une certaine manière, dit voilà, bon bah avant de partir, l'eau encodée que nous avions était du côté, nous on était à 2867 si ma mémoire est bonne, avant qu'on parte en tournée, il y a 4 semaines de cela, et donc avoir une eau encodée à 10 puissance 2867, c'est sûr que ça vous change du 10 puissance 200 ou 300, qui sont déjà exceptionnels par rapport aux références habituelles. Et en revenant, nous avons découvert que certaines bouteilles avaient déjà dépassé, bon là, celle la plus haute, parce que depuis elle a encore modifié, nous étions déjà au-delà des 12 000. Donc 10 puissance 12 000, c'est carrément impossible à réaliser intellectuellement parlant. Et là, je vous dis, ce soir, nous avons mesuré à 18h30, c'est-à-dire il y a même pas 2 heures de ça, nous étions passés à 45 000. Donc, ce qui veut dire que plus elle monte en puissance et plus elle va vite à monter en puissance. Donc, nous sommes bien dans un problème d'inertie, c'est-à-dire de démarrage. Mais une fois que ça a démarré, eh bien, ça va très 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 vite. Donc d'ici la fin de l'année, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui auront changé. Et c'est pour ça que je répète depuis un mois, depuis que je vois tout le monde, enfin tous ceux que j'ai vus pendant la tournée, c'est disséminer les cailloux le plus vite possible, bien sûr. Hein, n'attendez pas Noël pour faire quelque chose, parce que ça effectivement fait énormément de différence. Alors, une question de Jardin Zen. Quel premier bilan fais-tu de cette première tournée? Et quels sont vos ressentis de cette tournée? Alors, le premier bilan, c'est que nous n'avions pas vraiment d'attente. On peut dire en termes de résultats, parce que on s'est dit, le temps que ça se fasse, qu'on commence à avoir un résultat, ça va prendre un temps certain. Et donc, on pouvait penser en termes de mois. En fait, les résultats ont été très 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 étonnants, au point que, on va dire au quart de la tournée, on avait déjà des résultats impressionnants. Et plus nous avons avancé dans le temps, et plus ces résultats ont été, on va dire époustouflants, hein, pour pas dire moins. Donc le bilan est simple, nous n'avons encodé qu'une partie de la France. Enfin, encodé qu'une partie d'État de la France, il reste toute la partie sud à faire et nous allons devoir prévoir des tournées supplémentaires parce que, il nous faut encoder beaucoup plus que prévu car nous avons commencé à encoder, comme je vous disais, des cathédrales et en fait, il nous faut encoder toutes les cathédrales. Donc, ça rajoute beaucoup de travail. Mais bon, les choses sont en cours, ça avance, et les résultats sont vraiment... c'est pas un renversement d'épaule, mais ça va être à peu près du même acabit, à quelque chose près. Alors, les ressentis de cette tournée, c'est que il nous faut, en fait, on va dire, arracher encore plus fort, car plus tôt ça sera fait, et plus tôt l'effet sera bénéfique. Donc, pas question de rester à la maison pendant 15 jours pour dire on se repose, parce que l'espace de 15 jours, au rythme où ça va là, c'est comme si on disait vous avez de l'eau encodée à 10 000, et puis vous reposez pendant 15 jours, et puis vous aurez de l'eau qui sera encodée à 10 500. Alors que si vous continuez, elle sera peut-être à 500 000. Donc, aujourd'hui, il est nullement question de faire une pause. Parce que c'est maintenant que ça se passe. Et c'est... Voilà, quoi. Donc, nous allons continuer, on va dire, aussi fort que possible, le plus longtemps possible, car c'est maintenant, vous savez, comme comme on va dire un TGV qui démarre, c'est pas quand la locomotive commence à bouger qu'il faut s'arrêter, faire une pause. C'est seulement quand elle a atteint une certaine vitesse que là, on peut s'asseoir et faire la pause. Mais il faut continuer à pousser, et donc je vous enjoins à participer, bien sûr, le plus activement possible, car c'est maintenant que ça se passe. Alors, toujours une question de Jardin Zen, peux-tu nous dire quelques mots sur ton passage en codage au Mont-Saint-Michel, encodé le 10 août, où je suis passé avec quelques amis quelques jours plus tard? Alors il faut savoir que entre le moment où on encode et le moment où on peut sentir les résultats, il se passe quand même un certain délai. Donc, parce qu'il y a, comme je disais, une inertie. Donc cette inertie, si tu es passé le 11 ou le 12 août, t'as pas dû sentir beaucoup de différence. Hein, parce que le Mont-Saint-Michel, c'est quand même pas un petit caillou. Hein. Il y a quand même beaucoup. Et il y a aussi d'autres phénomènes spécifiques au Mont-Saint-Michel. C'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, au niveau du Mont-Saint-Michel, on a le nombre de touristes qui passent. Il y a un très 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 grand nombre de touristes qui passent. Et il faut savoir que tous ces touristes sont quand même des bouts de charbon noir, bien noirs. Hein, et donc, ils alourdissent considérablement, on va dire, l'atmosphère. Alors bien sûr, les gens normaux ne sentent pas trop, parce que sinon, ils iraient pas, quoi. Donc, le truc, c'est que l'encodage, nous le verrons la prochaine fois que nous irons, hein, c'est-à-dire qu'on va y retourner dans un certain temps, et là, on pourra vous dire plus précisément qu'est-ce qui s'est passé, comment ça joue, mais bon, de toute façon, ça a dû faire quelque chose. Voilà tout ce que je peux dire, on va dire pour l'instant, sur le Mont-Saint-Michel. Bon, je vais rajouter, le Mont-Saint-Michel est sur une ligne très importante, qui est une ligne, on va dire, énergétique très importante, et comme nous n'avons pas suffisamment encodé, on va dire, de cathédrale sur cette ligne, la diffusion, on va dire, de l'encodage sur cette ligne énergétique, bah, pour l'instant, est un peu brisée. Donc voilà, donc il est, Mont-Saint-Michel est un petit peu isolé pour l'instant, mais ça va monter en puissance au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre encodage. Et là, on verra les véritables différences. Mais de toute façon, il y a déjà une différence. Mais elle est encore trop subtile. Hein. C'est-à-dire que, comme je vous disais, pour passer de l'eau à 10 puissance 100, ou puis 200, et puis 300, ça prend un certain temps. Donc le Mont-Saint-Michel ne coupe pas l'affaire. Hein, surtout qu'il est enrobé par la mer en même temps, ce qui lui demande aussi d'aller encoder la mer. Donc ça réduit encore ses capacités, puisque ça augmente, on va dire, l'inertie. Mais il est clair que quand le Mont-Saint-Michel aura atteint des 10 puissance 5000, là ça va aller très 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 vite. Surtout si autour, puisque nous l'avons fait sur la Bretagne principalement, mais pas en Normandie, hein, la Bretagne, nous avons encodé énormément, on va dire, d'édifices, y compris des menhirs, des dolmens, des plages. Donc, on va dire que c'est surtout en Bretagne qu'on va commencer à sentir le plus, le plus de résultats. Parce que là, on n'a pas fait dans la dentelle. Enfin, si, et on a fait beaucoup de dentelle. Hein, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de routes et on a encodé beaucoup de choses. Donc là, le résultat devrait être beaucoup plus probant, on va dire. Hein. Donc là où nous sommes passés déjà, on va dire, dans nos premiers tours, c'est-à-dire le milieu de la France, l'Est et le Nord, va de toute façon se demander que l'on repasse. Hein. Donc après qu'on ait fait le Sud, on fera plus précisément, on va dire, toutes ces régions où nous sommes déjà passés. Hein, c'est-à-dire le centre de la France, l'Est de la France, toute la partie, on va dire, désertique de la Champagne. Nous allons encoder lourdement par là, parce que pour l'instant, eh bien, il y avait d'abord aucun tas d'encoder, et on n'avions encodé pratiquement aucune cathédrale ou chose comme ça. Donc, ces parties-là restent relativement très désertes. Et donc, il va falloir y remédier d'une certaine manière. Mais pour l'instant, priorité à l'encodage des cailloux, pour la diffusion des cailloux. Donc, continuons sur la tournée, on va dire, du Sud. Et ensuite, on attaquera, on va dire, on recommencera en fait presque le périple qu'on a fait, simplement plus en détail. Donc ça tirera sur le mois d'octobre et sur le mois de novembre s'il faut, mais de toute façon, nous allons encoder la majorité, on va dire, de ce que l'on peut en édifice, on va dire religieux principalement, Et ça, je vous expliquerai le pourquoi dans un article plus détaillé qui vous fera comprendre l'importance de cela. Alors ça, c'était un programme qui était prévu, on va dire, à l'automne, et on l'a attaqué plutôt que prévu pour vous dire que les hautes sphères ont été, on va dire, très très surpris du résultat du travail effectué jusqu'à ce jour. Voilà. Alors, une question de Delta. Existe-t-il un lien entre leur opération Petit Poussé et la météo très pluvieuse de ces derniers temps ? Alors je répondrai oui et non. C'est-à-dire qu'il était déjà prévu qu'il y ait une certaine pluviosité, puisque, comme vous le savez, nous sommes dans l'an 2 et c'est l'an de l'eau. Donc il était prévu dans les plans que la France se fasse, on va dire, nettoyer. C'est-à-dire qu'il y ait beaucoup d'eau. Et bien sûr, l'opération OPP amène un plus. Donc en ce sens, plus nous diffuserons cette année les cailloux un peu partout, et plus ça va diffuser plus vite et plus fort. Donc les deux se conjuguent, on va dire. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu l'opération Petit Poussé qu'il a plu. C'était déjà prévu qu'il pleuve beaucoup. Et si on nous a refilé le programme d'encodage de l'eau, c'est que parce que ça faisait partie du plan, tout simplement. Alors, travail sur la grille cristalline. Faut-il forcément être en direct pour travailler sur la grille cristalline, ou peut-on, selon toi, le faire à distance ? Alors là, il y a plusieurs choses à regarder. C'est que il y a un travail sur les cours d'eau, qui est une chose, et il y a un travail sur la grille cristalline, qui en est une autre. Donc, il ne faut pas confondre les deux. L'eau, c'est tout l'aspect, on va dire, horizontal. Et donc, il faut encoder l'horizontal. La grille cristalline, c'est du vertical. C'est pour ça que nous encodons les cathédrales principalement, et les églises, et certaines, on va dire, basiliques et co. Donc, la grille cristalline, c'est d'abord et avant tout la mémoire, je rappelle, de l'humanité dans l'astral. En clair, l'encodage de la grille cristalline, ça revient à nettoyer la mémoire involutive de l'astral. Donc ça, c'est un travail particulier. Ensuite, dire qu'on peut travailler à distance est une autre possibilité. Alors, si tu veux travailler à distance, dire « voilà », comme le font déjà certaines personnes, c'est-à-dire de mettre des cristaux dans une bouteille, te mettre dessus et dire « j'envoie à tel endroit », tu peux effectivement passer par la grille cristalline pour aller encoder des endroits où tu n'as jamais mis les pieds. Donc c'est vrai que ça marche. Donc il y a pour l'instant des personnes qui font des essais, qui vérifient les résultats. Car, comme vous le savez, si vous prenez une carte IGN ou vous regardez sur Géoportail ou sur Google Maps, vous pouvez savoir avec votre pendule la montée en puissance des endroits. Donc, si vous avez déposé des cristaux dans certaines rivières, vous pouvez régulièrement vérifier quelle est la montée en puissance de ces rivières. Et ceci sans y retourner. Donc, on voit bien qu'il y a une interaction entre nous et les endroits où nous encodons. Et donc, bien sûr, d'une certaine manière, c'est à travers la grille cristalline que ces informations passent. Donc, aujourd'hui, il existe quelques personnes qui, effectivement, font des tests à distance, et ça marche. Alors, nous avons demandé à nos guides pourquoi certaines personnes ont cette capacité, et la réponse a été relativement simple. Vous savez que nos corps de manifestation, ont été écrasés à l'image, on va dire, d'une canette de bière sur laquelle une voiture a roulé. Alors, il faut savoir que nous avons 12 corps. Et donc, ces 12 corps, c'est comme c'était 12 canettes de bière imbriquées les unes dans les autres, et il y a un 40 tonnes qui est passé dessus. Donc, selon les individus, il y a eu des pliures. Et ces pliures ont forcément, on va dire, cassé de la tuyauterie. Parce que souvent, les gens, quand ils boivent de l'eau encodée, ils disent « ouais, ça doit déboucher les tuyaux ». Mais il faut savoir que pour déboucher un tuyau, il faut déjà que le tuyau soit lui-même pas coudé. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, je prends des tuyaux de chauffage, vous dites « les tuyaux de chauffage, oui, il y a de la boue dedans, donc ça décrasse le tartre, tout le truc, etc. » Oui, mais la maison est toujours debout. Maintenant, imaginez qu'il y ait eu un tremblement de terre et que la maison ça se soit écroulée. Quel est l'état du circuit de chauffage? Donc, il y aura des tubes qui seront écrasés, il y aura des tubes qui auront été pliés, il y aura des tubes qui auront été coupés. Et donc, même si vous buvez de l'eau encodée, un tube coupé, ça ne va pas le réparer. Si vous avez un tube qui est coudé et qui ne laisse plus passer d'eau, ben, ça ne va pas le redresser. Si vous avez un tube qui est écrasé, eh ben, ça ne va pas le remettre dans son état. Donc, l'eau encodée peut faire le travail là où elle circule. C'est-à-dire dans les tuyaux, dans les bouts de tuyaux qui restent encore, on va dire, dans un état où l'eau peut circuler dedans. Donc, comme nous avons tous été pliés d'une manière plus ou moins différente, hein, eh bien, il s'avère que certaines personnes ont encore en état, on va dire, certaines tuyauteries qui permet l'encodage à distance. Et donc, c'est dû tout simplement au pliage, c'est-à-dire que leur tuyau de chauffage ne s'est pas fait plier dans cette circuiterie-là. Donc, ils ont cette capacité. Par contre, d'autres personnes ne l'ont pas, parce que tout simplement, cette portion-là, ou ce circuit-là, a été endommagé, on va dire, physiquement parlant. Donc, nous avons effectivement demandé à nos guides, si par exemple, moi et Corinne, on pouvait le faire à distance, car imaginez que si on pouvait le faire, on n'aurait pas besoin de prendre la bagnole et de faire le tour de France. Et on nous a répondu que nos tuyaux avaient été coupés. Enfin, écrasé, c'est-à-dire que c'était une possibilité que nous n'avions plus actuellement dans l'état de notre corps de manifestation. Alors ils ont dit, ben, on va essayer de faire des essais pour vous les réparer, mais il n'y a rien qui dit que vous arriverez à être aussi opérationnel que, quand, par exemple, Raymond qui dit « c'est mon cas ». Donc Raymond, sache que tu as une tuyauterie qui te permet de faire ça. Hein. C'est-à-dire que celle-ci n'a pas été endommagée. Voilà. Donc, ce sont des cas spécifiques. Alors, le truc, eh bien, essayez de votre côté de voir si vous pouvez le faire. Donc, je demande à Raymond, puisqu'elle est là, à m'écouter ce soir, c'est de faire part de ses expériences, de comment elle fait, afin que les autres personnes puissent essayer, car je suppose qu'il existe aussi d'autres personnes dont ce circuit n'est pas, on va dire, détérioré. Et imaginez combien c'est précieux. Parce que ça veut dire que vous seriez capable à ce moment-là d'aller encoder certains points où nous ne pourrions pas aller. Voilà. Hein, donc, continuez à expérimenter, car je vous le dis, l'opération petit poussé, c'est d'abord être un enfant et essayer toutes les possibilités, tout ce qui vous passe par la tête, essayez. Et on va voir qu'il y a vraiment une infinité de possibilités. Bien. Alors, Raymond vient me dire que son ordi a été, comme par hasard, virolé. Bien. Donc, bonne désinfection de ton ordi, et rapidement, espérons que tu pourras te reconnecter. Non, il n'y a pas de hasard. Dites-vous bien que quand on joue avec la lumière, forcément, il y a la non-lumière qui essaye de mettre son nez là-dedans, de la manière dont elle peut le faire, bien sûr. Alors, il y a une question de Mille. Y aura-t-il une carte des points encodés avec mesure UB avant-après? Alors ça, c'est une histoire d'organisation. Donc, nous avons un informaticien qui s'est proposé à, on va dire, répertorier tous les points qui ont été faits sur toutes les cartes, qui peut y avoir sur le géoportail, etc. Je ne vais pas dans le détail. Donc, nous lui avons donné l'autorisation d'accéder au site et de faire toutes les modifications nécessaires afin que ça soit un procédé automatique. Ensuite, les montées en puissance successives, c'est pas toujours évident de mettre cela, on va dire, par écrit, car ce qui importe, c'est que tout soit encodé et que là où il y a des régions un peu faiblement, on va dire, encodées, que on fasse un effort pour soit déposer des cailloux, soit demander à des personnes comme Raymond d'aller envoyer du code dans ces endroits-là afin de boucher les trous, entre guillemets, là où il y aurait, on va dire, une déficience, un état déficitaire en termes de puissance. Donc, pour moi, savoir qu'il y a 3 mois c'était à temps, qu'il y a 2 mois c'était à temps, qu'il y a 1 mois c'était à temps, et qu'aujourd'hui c'est à temps, ce qui m'intéresse surtout, c'est le résultat. Et tant que un cours d'eau ne sera pas à 10 puissance 5000, Ben, on bosse. C'est simple. D'accord? C'est la progression en soi n'est pas très importante. Ce qui compte, c'est le résultat atteint ici et maintenant. Et tant que ce résultat est faible, et voire inexistant dans certaines régions de France, eh bien, on couvre tout. Car, comme je vous l'avais dit, il faut d'abord encoder. Et une fois que tout est encodé, ensuite, il y a la montée en puissance. Donc, n'imaginez pas qu'il y a une rivière qui va monter à 10 puissance 10 000, et puis que 50 km plus loin, on aura une eau qui sera à 10 puissance rien du tout. Il faut que l'encodage, le programme, soit diffusé à la totalité des cours d'eau. Et une fois que ça sera fait, eh bien, la montée en puissance sera possible. Donc, d'abord, encoder un maximum tout ce qu'on peut, et ensuite, la montée en puissance pourra se faire dans de meilleures conditions. Voilà. Concernant les nappes phréatiques, une question de Carole. As-tu des nouvelles des nappes phréatiques? L'eau de nos pluies a dû s'encoder et ruisseler. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'atteindre une nappe phréatique, ça prend généralement des années. Car l'eau doit traverser tout le sol. Donc une nappe phréatique, c'est pas de l'eau de ruissellement. L'eau de ruissellement, comme le nom l'indique, ça le ruisselle, c'est-à-dire qu'elle ne stagne pas. Et donc c'est une eau qui court. Un petit peu que quand il pleut, quoi. C'est l'eau pluviale, ça va dans les caniveaux, ça coule, ça va dans les tuyaux, c'est rejeté tout de suite à la rivière, etc. Donc ça n'a pas le temps vraiment d'agir au niveau des nappes phréatiques. Donc faut pas tout mélanger, mais une chose est claire, c'est que de toute façon, avec tout ce qui est tombé comme flotte, eh bien, ça aide à la propagation du code. Car, je vous dis, l'encodage, c'est surtout la propagation. Or, cette propagation est une propagation, on va dire, vibratoire. C'est-à-dire que quand vous jetez, si par exemple, vous jetez un caillou en bas d'une cascade, vous pourriez penser logiquement que ça va encoder tout le bas de la cascade, et puis, mais que ça va pas aller en haut. Ben, c'est faux. C'est-à-dire que le programme lui-même peut remonter la cascade et peut remonter le courant. Donc, quand il y a de l'eau de ruissellement, eh bien, ça permet une diffusion en surface assez rapide, on va dire. Hein, donc, tant qu'il pleut, c'est super. Donc, le fait d'encoder, on va dire, certains édifices, certaines places, eh bien, fait que ça aide à l'encodage, on va dire, des nuages. Donc, quand vous encodez au niveau des arbres, hein, c'est-à-dire que s'il y a de l'eau, parce que maintenant, on sait qu'on peut mettre des pierres encodées directement dans les forêts, au pied des arbres, et qu'il n'y a pas besoin que ça soit dans l'eau, parce que ça, c'était la V1. Maintenant, la V2 est capable d'encoder tout, même l'atmosphère, directement. Et ça, c'est une question que je vais aborder plus tard, enfin, des réponses que je vais donner à des questions, c'est-à-dire que le programme V2 décrasse non seulement l'eau, mais aussi toute l'atmosphère. Voilà. Donc, vous pouvez lancer des cailloux partout où vous pouvez, ça va se propager partout. Donc, si vous savez là où il y a des vortex, où il y a des centres énergétiques, balancez les cailloux, parce que les vortex vont diffuser. Et c'est pour ça que les êtres de la nature vous proposent de vous dire où il faut mettre les cailloux. Donc, bien sûr, faites en contact avec eux et pouvoir les entendre pour pouvoir le faire. Car vous pouvez, bien sûr, balancer des cailloux un peu partout, mais si vous les mettez à des endroits qu'ils vous indiquent, la diffusion sera alors là maximale. Donc, elle est diffusée partout où il y a des lieux, on va dire, que vous sentez, qui sont assez forts, assez énergétiques, n'hésitez pas. Hein. Et donc, forcément, puisque ça va se propager au niveau des nuages, car je vous rappelle que les arbres transpirent, c'est-à-dire que si vous mettez de l'eau encodée ou des pierres encodées au pied des arbres, eh bien, automatiquement, cette eau, cette vibration va remonter dans tout l'arbre, qui va se sentir bien d'ailleurs, eh bien, et va le transpirer. Et cette eau transpirée va remonter au niveau des nuages par l'évaporation, tout simplement. Donc, il y a, donc les nuages, une fois que les nuages sont contaminés, ça contamine partout. Hein. Donc, c'est un ensemble. Le but, c'est de balancer du caillou partout où on peut. Donc là, faut pas en faire dans le détail, quoi. Donc nous, maintenant, même quand on est en voiture, on ouvre les fenêtres et on balance dans les fossés, partout où on peut, partout. Voilà, c'est du petit poussé élargi, c'est, voilà, on fait plus de détails. Voilà. Alors, toujours une question de Carole. Que pensez-vous de l'idée de poser une bouteille avec cristal encodé qui monte constamment en vibration sur une carte de la France et du monde? Beaucoup de thérapeutes travaillent ainsi, je suppose que cela doit au minimum booster les pierres déjà disséminées. Alors, ça va pas booster les pierres disséminées parce que les pierres qui sont disséminées ont l'encodage et donc, on va dire, sont à 100% d'efficacité. Donc il n'y a pas de perte d'encodage au niveau des pierres encodées. Hein? Alors, je vais donner une précision. C'est un encodage atomique qui est fait au niveau de l'atome et qui n'est pas fait au niveau des molécules. En clair, eh bien, l'encodage qui est fait dans les pierres que nous avons encodées ne peut pas être détruit, ne peut pas être, s'épuiser dans le temps. Donc, à notre niveau, il est éternel. Hein? Personne ne peut le l'ôter, sauf s'il refait exactement la même chose que nous. Hein? C'est-à-dire la capacité de pouvoir encoder au niveau atomique. Et pour ça, il faut passer par des êtres de la nature spécialisés, ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens qui disent encoder. Donc, j'en profite pour vous dire que, parce que c'est une question qui est quelque part qui traîne, là, que j'ai lu tout à l'heure, quand vous mettez des pierres encodées sur des pierres non encodées, ces pierres non encodées vont en profiter, effectivement, et elles vont ramasser le code, mais ça sera à ce moment-là un enregistrement moléculaire, c'est-à-dire quelque chose qui s'épuisera dans le temps. Donc, il faut savoir que quand c'est une programmation moléculaire, elle est sensible à la lumière, elle est sensible à tous les paramètres extérieurs, et donc elle va s'épuiser. Quand c'est une programmation atomique, elle ne s'épuisera en rien. Qu'elle soit à la lumière, en plein soleil, qui gèle, ou qu'elle soit à 200 degrés, ça ne changera rien. Voilà, donc c'est ça la différence entre un encodage moléculaire et un encodage atomique. Donc vous pouvez bien sûr mettre un certain nombre de pierres non encodées sur des pierres encodées. Elles vont prendre le code, mais le perdront d'une manière ou d'une autre. Ça ne sera pas éternel. Une question de Alain. Lorsqu'on lance des pierres encodées dans l'eau, faut-il y ajouter une intention particulière? Alors, comme c'est un programme atomique, ça changera rien au programme. Par contre, comme vous êtes un créateur, ça va amplifier cet effet créateur. Donc il est préférable, quand vous lancez les pierres, d'avoir vraiment l'intention d'encoder. C'est-à-dire que nous, quand on lance des pierres, on s'amuse comme des gamins, mais avec cette idée très claire derrière la tête qu'on fait du bien. Donc, des fois, je prends les cailloux, je les lance au pied des arbres, et parce que je sais que ça va être un bonus plus pour l'arbre et pour tous les êtres de la nature qui vivent dedans. Donc, j'ai cette intention quand je lance les pierres. Alors, le feu du cœur, oui, mais tu sais, quand tu roules en voiture, tu fais pas un feu du cœur, regarder la route et balancer les cailloux, ça fait beaucoup de choses à la fois. Le feu du cœur aide, on va dire, à augmenter les performances de l'eau encodée. Donc si tu fais un feu du cœur, c'est un engrais. Oui, d'accord. Au niveau de la pierre, faire un feu du cœur, ça peut toujours aider à une meilleure dissémination. Mais ça veut dire que tu prends les pierres une par une, et puis que ben tu y vas gentiment, quoi. À pied, tu poses ton cul, t'attends, et bon. Donc, je veux dire, le feu du cœur est quelque chose d'extrêmement important. Simplement, ça dépend par rapport à quoi. Donc, si vous voulez monter en puissance votre bouteille d'eau, vous pouvez faire un feu du cœur. Mais si vous faites un feu du cœur pour un étang, ça va être plus difficile, mais ça va agir, c'est clair. Mais nous n'avons pas aujourd'hui, enfin moi et Corinne, le temps de s'amuser à faire des feux du cœur pour tout. Parce que bon, on a d'autres outils que je parlerai peut-être un jour, qui nous permettent de pouvoir effectivement amplifier le feu du cœur. Parce que imaginez que selon chacun, nous avons un feu du cœur plus ou moins puissant. Donc plus vous allez jouer sur le muscle du feu du cœur, et plus il va devenir puissant. Mais après, il existe, on va dire, d'autres appareillages qui sont offerts, on va dire, par les êtres de lumière, c'est-à-dire des effets qui vous permettent de pouvoir amplifier votre feu du cœur. Un peu comme des lentilles, si vous voulez, par rapport à la lumière. Donc ça, bien sûr, vous pouvez avoir ce genre de cadeau qu'à la seule condition que vous arrivez à ce stade. Donc, et vous pouvez pas le demander. C'est-à-dire que ça vous sera offert en fonction de vos services. Mais bon, déjà, commençons par le feu du cœur, on est d'accord. Feu du cœur pour tout, oui. Moi, quand je roule à 100 à l'heure, je peux pas faire un feu du cœur... balancer le caillou ou conduire à la fois. Enfin, bon, j'ai des limitations, comme vous pouvez le savoir. Hein? Alors, toujours une question d'Alain, avec les mini-cristaux encodés à mettre dans les robinets, comment, comme ce n'est pas toujours possible pour tous, il m'est venu de placer une pierre à la sortie dans le siphon collecteur de la maison et au pied des descentes de gouttières. L'effet est sans doute le même. Alors, si c'est les descentes de gouttières, bah, c'est de l'eau qui est extérieure, et donc c'est pas de l'eau qui va aller dans le réseau d'eau potable de la ville. Hein, ça, c'est une première chose. Dans le siphon collecteur, bah, ça, c'est pour les eaux usées, donc ça va aller encoder, bien sûr, à la station d'épuration, mais ça va pas aller encoder l'eau de la ville. D'accord ? Donc, en mettant les petites pierres dans les robinets, on va encoder l'eau de la ville. Puisque, comme je vous dis, la vibration, elle ne suit pas le courant, elle remonte aussi le courant. Donc, le mieux, c'est de mettre des cristaux avant les robinets. Quand je dis avant les robinets, c'est-à-dire que souvent, vous avez le robinet du prestataire de service qui vous balance la flotte, je ne sais plus son nom, mais c'est pas grave. Et ensuite, bah, généralement, des personnes font poser des filtres anti-calcaire, des machins, des trucs comme ça. Et ensuite, c'est distribué dans toute la maison. Et ce n'est qu'après qu'il y a les robinets. Et donc, le mieux, c'est bien sûr de poser les pierres avant les robinets, c'est-à-dire au niveau pratiquement des filtres, c'est-à-dire tout de suite, après le robinet du prestataire de service qui fournit l'eau. Alors, je ne me rappelle plus du nom, mais voilà. Et donc là, vous savez que l'encodage va pouvoir remonter tout le circuit de l'eau de la ville. Donc moi, j'ai prévu de le faire. Mais bon, pour l'instant, pas le temps, mais c'est quelque chose qui va se faire. Alors, une question de cas, peut-on dire que l'encodage atomique est de l'encodage quantique? Eh bien, je vais te répondre oui et non, parce que quantique, c'est simplement le passage d'un électron d'une couche à une autre couche, donc le quantique est forcément atomique. Donc, quand on dit on fait de l'atomique, forcément, on va parler d'état quantique. Donc, on ne peut pas faire la séparation de l'un avec l'autre. Mais simplement, c'est, dans ta question, c'est la confusion. Un quanta, c'est forcément une quantité d'énergie entre une couche atomique et une autre couche atomique. Donc, quand on dit de l'encodage atomique, c'est forcément quelque chose qui atteint du quantique. Donc aujourd'hui, quand tu sais que nous avons de l'eau encodée qui est montée à 10 puissance 45 000, le quantique que les gens ils ont dans la tête, il est dépassé 10 000 fois, 100 000 fois. D'accord ? Bon, je vais continuer dans les questions. Une question d'Anef. L'eau de paix aurait-elle un effet de déprogrammation sur toute interférence dans le juste fonctionnement de cette glande ? Parle de la glande pinéale. Ou bien la glande pinéale serait-elle aussi une totale arnaque spirituelle de la 3D au même titre que le fameux canal du troisième œil, cité par toi dans un article antérieur? Bah écoutez, je serais très enclin à dire que le bordel qui est fait au niveau de la glande pinéale est un bordel qui relève bien sûr aussi, on va dire, du canal du troisième œil. La glande pinéale fait énormément de choses. On est d'accord. Mais simplement, pour l'instant, les gens pensent qu'en sachant techniquement ce qui se passe, ils vont s'améliorer. Moi, je peux vous donner, si vous voulez, le mode d'emploi de comment fonctionne une centrale atomique. Et c'est pas pour ça que vous allez fournir un gramme ou un ampère d'électricité. Pourquoi ? Parce qu'entre le moment où vous savez comment une chose fonctionne, ça ne veut pas dire que vous l'avez. Donc aujourd'hui, au lieu de se poser des questions du comment la glande pinéale, etc., utilisez-la plutôt sans vous poser les questions techniques. Hein, c'est-à-dire, c'est comme une voiture. Ça vous sert à quoi ? Je vous donne tous les plans de la bagnole, hein, de l'injecteur, machin truc, de la dynamo, machin truc, avec tous les détails, tous les plans, avec même vision 3D, tout. Non. Posez-vous le cul dans la bagnole, démarrez la bagnole et roulez. C'est ça qu'on vous demande. On vous demande pas d'être l'ingénieur en chef et qui sait tout ce qui se passe dans la caisse. Utilisez la caisse. Donc, concernant la glande pinéale, c'est la même chose. L'eau encodée fait certainement beaucoup de choses. Mais on n'a pas besoin de savoir le détail. L'essentiel, c'est que vous appreniez à déployer votre véhicule, enfin, vos véhicules de lumière, et à pouvoir, on va dire, prendre conscience des nouveaux pouvoirs que vous allez, en fait, découvrir en vous. En fait, c'est un décrassage et vous allez redécouvrir des choses en vous. Alors, soyez plutôt, on va dire, fixé sur ce qui se passe en vous et comment vous allez pouvoir l'utiliser, que plutôt vous fixer, mais comment ça fonctionne. J'espère m'être fait comprendre de ce côté-là. On se fout du mode d'emploi, enfin du mode d'emploi, du mode technique, des cahiers techniques de la voiture. Ce qui est important, c'est de dire, tiens, ah, il y a un clignotant qui s'allumait, d'où il sort celui-là? À quoi ça sert? Comment je peux faire? Sur quel bouton je peux appuyer? C'est ça qu'il faut vous poser comme question. Après, le détail technique ne sert pas à grand-chose. Hein? Donc, j'ai remarqué effectivement que, comme on a flingué le troisième œil il y a déjà quelque temps, maintenant c'est la glande pinéale. Et puis un jour, ça sera autre chose. C'est du divertissement. Une question de Dan 11. Après avoir bu de l'eau encodée avec un de ces deux P durant 3 semaines, j'ai mesuré mes taux vibratoires au pendule et constaté que tous mes corps énergétiques avaient évolué positivement. Sauf celui du corps physique qui est resté inchangé. Je m'interroge. D'autant plus que l'un de mes objectifs principaux est, il me semble, de rendre notre corps carboné moins lourd et de faciliter sa transition interne vers le corps de silice 5e dimension. Eh bien, je ne vois pas où est le problème. Car il faut savoir que ton corps physique est la densité, la dimension de plus grande densité. Donc c'est lui le plus lourd, c'est lui le plus chargé, et c'est lui qui va prendre le plus de temps pour remettre en état. Donc, on ne commence pas, comme dirait l'autre, à dire « quand tu veux retaper une maison ». Tu dis non, je vais recommencer par les fondations, et puis après je ferai les murs. Généralement, ça marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que si tu veux retaper les fondations, il faut commencer déjà à virer tous les murs. Et ça, tu peux pas. Donc tu commences à retaper le toit, hein, c'est-à-dire le corps, si je prends toujours l'exemple, le corps le plus subtil, qui est accessible. Après tu dis quand le toit est refait, eh bien il y aura moins de fuite, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'eau qui va couler dans les murs et me foutre le bordel. Donc déjà la maison elle sera au sec. Une fois qu'elle sera au sec, on va commencer à taper par les étages, d'abord du haut, et petit à petit, on va descendre pour aller jusque dans la cave. Et puis quand on sera dans la cave et qu'on aura séché la cave et que tout au-dessus sera à peu près nickel chrome, c'est-à-dire qu'on aura viré tous les mobs et toutes les moisissures et toute la merde, on va pouvoir s'attaquer, on va dire, aux fondations. Et donc les fondations, ça sera plus facile quand tu seras à l'intérieur et que tu sais que tous tes murs sont secs. Et donc à ce moment-là, tu pourras creuser la cave et dire, voilà, il y a tel truc qu'il faut renforcer, tel truc qu'il faut renforcer. Donc ton corps physique est le dernier, véritablement, à être en ligne. Parce que, globalement, il est celui qui est le plus lourd, le plus dense, mais aussi le plus amoché. Donc, passer du silice, du carbone au silice, c'est d'abord, il faut retaper le toit. Il faut retaper les corps supérieurs. Et petit à petit, ça descendra de plus en plus dans le corps physique. Donc beaucoup de gens qui ont pris de l'eau de paix ont flippé un tout petit peu, on va dire au bout d'un certain temps, ils disent je suis malade, comme pas possible, etc. D'ailleurs, il y a des questions qui vont suivre là-dessus, et c'est normal. Parce que quand vous commencez à faire du ménage, on va dire, hein, c'est-à-dire que le toit était refait globalement, vous commencez à virer toute la merde qu'il y a dans le grenier. Et puis après, vous descendez étage par étage. Donc, il est normal d'avoir un certain nombre de symptômes. Alors, certaines personnes me disent, m'ont écrit via les emails, me disent, oh là 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 là, je suis de mal en point, mais à tous les niveaux, à tous les niveaux. Ça veut dire que la maison est tellement encrassée, tellement dégueulasse, que dès qu'on ouvre une fenêtre, de toute façon, c'est le bordel. Donc, c'est normal, ça fait du ménage. Alors, les gens disent, oui, maintenant j'en bois plus parce que, ceci, cela. Et ils peuvent, comme dirait l'autre, à la rigueur faire une pause. Mais, de toute façon, s'ils arrêtent, la maison ne pourra pas continuer, bien sûr, à se nettoyer. Donc, ils vont faire durer le plaisir du nettoyage. Alors, comme vous le savez, quand on est plein d'entrain, quand on y va, et puis il faut pas s'arrêter. Puis, quand on voit le bout, on se dit, on peut commencer à faire pause. Mais si vous dites, au bout d'un quart d'heure de brassage, je vais faire une pause, faut que j'aille prendre mon café, mon infusion, c'est-à-dire que la journée va passer vite et que vous n'aurez pas fait grand-chose. Donc, dites-vous bien que quand vous allez monter l'eau en puissance, que vous allez avoir une montée de vos eaux de référence, on va dire, en puissance, votre corps va suivre. Et donc, forcément, plus il va suivre et plus ça va déménager, comme on dit. Donc nous on a vu que quand on est revenu, on s'est shooté avec l'eau qui était à 12 000, C'est pas difficile. Ça a été des crassages intenses. Alors que, bah, on boit de l'eau en moyenne qui est à, on va dire, 2000, 2005 en moyenne. Mais le fait de passer à 12 000, on a senti la différence. Alors, je vous dis pas qu'on n'a pas encore touché la 45 000, parce que là, sinon, on sait pas dans quel état on va sortir. Mais il faut y aller progressivement, on verra. De toute façon, c'est tout à 45 000, on la dilue après dans toutes les autres bouteilles pour qu'elle monte en puissance. Donc, comprenez que plus l'encodage est haut en puissance, par l'encodage, la puissance de l'eau encodée est haute, et plus ça va aller décrasser fin. Donc, voilà, alors que dire? Est-ce que vous continuez la musique ou pas, quoi? Si vous voulez pas continuer la musique, bah vous arrêtez de boire de l'eau, vous évitez qu'elle monte en puissance. Sinon, bah, vous suivez la musique, quoi. Alors, comme je sais, généralement, les humains sont assez impatients, donc ils ont plutôt tendance à vouloir prendre la plus haute dose, et après, ils s'étonnent qu'ils ont des retours de bâton assez sérieux au niveau du corps physique. Je rappelle que c'est vraiment le corps physique, c'est la dimension la plus dense. C'est le corps le plus dense. Donc c'est lui qui est le plus lourd et donc le plus cassé. Et donc c'est lui qui forcément va avoir de grandes difficultés. Donc quand je parlais tout à l'heure d'inertie, on en est bien là. Il y a une inertie, c'est du lourd. Donc ça prend plus de temps. Une autre chose, tout à l'heure j'ai voulu mesurer, comme ça, ça m'est venu par la tête, je me dis tiens, je vais mesurer où j'en suis au niveau de mon corps physique. Eh bien ma petite voix n'a pas voulu me répondre. Enfin ma petite voix, le pendule, il n'a pas voulu répondre. Voilà. Donc je suis interdit de savoir où j'en suis. Donc pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on n'en a rien à faire. On continue, on boit, on décrasse, on continue, on boit, on décrasse, et puis voilà. Après mettre des chiffres, ça ne voudra plus rien dire. Arrive à un moment. Alors, une question de Mika Flo. J'ai donné des pierres à ma fille et à une amie, et tous deux ont été très très enrhumés, et ça dure longtemps, avec faiblesse, au point d'être couché plusieurs jours pour ma fille, à qui ça n'arrive jamais. Je pense qu'il y a une cochonnerie qui court, mais est-ce que l'eau aurait pu amplifier le phénomène et nettoyer de surcroît? Sinon, le chat de mon ami ne boit que l'eau encodée, il ne boit plus dans sa coupelle, mais dans la coupelle des cristaux. Ben voilà, c'est, vous avez la réponse, les animaux, tous les animaux, vont boire de l'eau encodée et le reste, elle l'oublie. Ils oublient l'autre. Ce qui veut dire que eux, ils savent où se situe la vie et où s'agit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, eh bien, s'ils ont été enrhumés, il faut savoir que les muqueuses de là-haut, comme on dit, hein, c'est-à-dire qui est tout en haut, c'est la muqueuse, la première, qui commence à décrasser en règle générale, parce que ça veut dire que tous les autres sites sont bouchés. Donc quand quelqu'un commence à avoir un rhume, ça veut dire qu'il est encrassé jusqu'à la coupe. Et donc c'est la coupe qui déborde. Donc ce qui déborde, ben, il sniffe, comment dire, il est enrhumé. Donc quelque part, si ta fille s'est trouvée très 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 enrhumée, c'est qu'elle était très 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 encrassée, mais surtout que les autres filtres qu'il y a en dessous sont complètement bouchés, total. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu évacuer par d'autres méthodes, c'est-à-dire par les reins, par les intestins. Vous comprenez? Donc, le corps décrasse quand quand les autres fils sont encrassés, eh bien, il va avoir en haut. Bon. Là-dessus, je crois avoir déjà parlé de tout ça à une certaine époque, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a des ordres de nettoyage, enfin disons, on va dire d'évacuation des toxines, et donc, d'après ce que tu dis, ta fille était apparemment très, 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 très encrassée, dans le sens où les autres filtres ne peuvent pas évacuer le type de toxine qu'elle a. Donc, ça passe carrément par là-haut. Donc, tout à fait normal, hein, et puis, bah, qu'elle soit couchée, tout à fait normal, parce que, bah, quand vous êtes dans un côté magnétique, comme quand vous dormez, ça va beaucoup plus vite. Mais si vous êtes debout et avec un mental, ça va beaucoup moins vite. Donc, voilà pourquoi vous pouvez être régulièrement très fatigué, et, bah, reste allongé, et puis, buvez, reste allongé, buvez, reste allongé, puis voilà. N'en faites pas plus. Laissez au moins à votre corps la possibilité de se réparer et de se nettoyer. J'ai l'idée qui me passe là, c'est comme si, quand vous êtes en train de faire du ménage, le fait de vous lever, c'est comme si vous aviez des invités. Alors, vous avez les invités à gérer tout en faisant en même temps le ménage et virer tous les par les fenêtres. Donc, c'est pas facile. Par contre, quand vous êtes allongé, c'est qu'il n'y a pas d'invité. Donc là, vous pouvez vraiment baigner facile. Quoi. Alors, j'espère que vous voyez l'image. Alors,